sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Comme chaque année, à partir de mi-novembre, les académies effectuent leur rentrée solennelle. Voici la toute première, l'Académie des sciences morales et politiques. Sa séance de rentrée s'est effectuée le lundi 19 novembre 2012. Vous entendrez tout d'abord la présidente pour l'année, Marianne Bassit-Bruguière, qui dresse le bilan des activités académiques, une année 2012 riche en nouveautés. Puis vous entendrez Bertrand Collomb lire le palmarès des 66 prix décernés. Et enfin, vous pourrez écouter le discours du secrétaire perpétuel Xavier Darcos. Entrez sous la coupole grâce à Canal Académie.
Mesdames et messieurs les ambassadeurs, monsieur le grand chancelier de la Légion d'honneur, monsieur le chancelier, messieurs les secrétaires perpétuels, chers confrères, mesdames, messieurs, au cours de cette séance solennelle de rentrée, il revient au président en exercice de rendre compte des travaux de l'Académie durant l'année écoulée. Ce devoir est inscrit au règlement depuis 1888. Il est arrivé que le secrétaire perpétuel en prit la charge, conformément à la règle antérieure ou en raison de circonstances particulières. Ce fut le cas en 1997, lorsque Pierre Messmer, alors secrétaire perpétuel de notre Académie, soucieux des bonnes traditions parlementaires dans ce Parlement de savants, souhaita rendre compte de l'œuvre accomplie au terme de 2 ans de mandat. En 2005, notre secrétaire perpétuel Michel Albert nous confiait une somme de réflexion sur l'activité d'ensemble de l'Académie au cours d'une année marquée à la fois par la célébration solennelle du bicentenaire de la naissance de Tocqueville et du centenaire de la loi sur la séparation des Églises et de l'État. Cette année, où pour la deuxième fois seulement de l'histoire bicentenaire de notre Académie, une femme occupe la fonction de président, il apparaît parfaitement conforme à la nature qu'elle assume la besogne d'économie domestique qu'est le compte-rendu des travaux de l'année. Deux bonnes raisons m'empêchent de me rebeller contre ce devoir. La première est d'ordre intellectuel et amical. Notre secrétaire perpétuel souhaitait nous entretenir d'un fort beau sujet. La seconde raison est de l'ordre des principes. Il convient de montrer, comme l'avait fait du reste la première présidence féminine il y a seulement 30 ans, que l'alternance entre les genres à la tête de notre bureau n'entraîne aucune contravention aux règles qui assurent l'heureux fonctionnement de l'institution et sa pérennité. La période légale dont j'ai à rendre compte est celle de mon mandat à partir du début de janvier 2012. J'y ajouterai cependant quelques événements de la fin de l'an dernier, postérieurs à la séance solennelle du 14 novembre 2011 et qui n'avaient pu être mentionnés dans la mémoire publique de notre compagnie que sont les discours prononcés en cette occasion. Notre Académie est un corps savant dont le visage change au fil des inconstances de la vie. Nous avons partagé avec le peuple de son pays et ses admirateurs émus à travers le monde entier la tristesse de voir s'éteindre le président Václav Havel le 18 décembre 2011. Ce grand écrivain humaniste, haute et vibrante figure de la démocratie, était membre associé étranger de notre Académie depuis le 13 janvier 1992. Nous avons regretté aussi, le 17 janvier 2012, la perte de John Anthony Jolovitch, professeur à l'Université de Cambridge, membre correspondant de la section législation, droit public et jurisprudence. Nous avons honoré nos confrères disparus. Au cours de la séance du 5 décembre 2011, notre confrère Jean-Claude Trichet a donné lecture de sa notice sur la vie et les travaux de Pierre Messmer. Nous avons appelé de nouveaux talents pour refaire nos rangs. Le 12 décembre, M. Philippe Levillain, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université de Paris-Nanterre, a été élu au fauteuil qu'avait occupé Pierre Chaunu, dans la section d'histoire et géographie. Le 26 mars 2012, l'Académie a procédé à l'élection de deux membres correspondants, M. Thomas Calvo-Martinez, président d'honneur de l'Institut international de philosophie et professeur à l'Universidad Complutense de Madrid, a été élu à la place laissée vacante par le décès de Sergio Cotta en section de philosophie. M. Christian Schrick, membre du Collège de l'Autorité des marchés financiers, a été élu à celle laissée vacante en section législation, droit public et jurisprudence à la suite du décès de Claude Raymond. Un troisième membre correspondant, M. Laurent Stefanini, chef du protocole, a été élu le 2 avril à la place vacante en section générale depuis le décès de Xavier Degnaud. Enfin, le 11 juin, nous avons élu M. Stephen Breyer, juge à la Cour suprême des États-Unis, à un fauteuil de membre associé étranger où il succède à l'archiduc Otto de Habsbourg. Ces élections, par l'attention qu'elles attirent dans les milieux intéressés et par les choix qu'elles indiquent, font voir que l'Académie persévère dans une mission première que lui confièrent ses fondateurs thermidoriens il y a plus de deux siècles, assurer un lien fécond entre les générations savantes et avec les milieux savants du monde entier. Par bien d'autres activités encore, notre compagnie remplit les diverses fonctions que la tradition et les règlements lui reconnaissent. Si, depuis plus d'un siècle déjà, l'Académie ne propose plus elle-même de sujets de concours sur lesquels, chaque année, les meilleurs esprits de la nation sont invités à disserter pour obtenir des prix, sa tâche originelle de suivre et promouvoir les travaux scientifiques d'intérêt général, d'exercer un jugement scientifique impartial dans le vaste champ des disciplines de son ressort, reste une de ses activités importantes, bien que peu connue du grand public. Le long palmarès que lira tout à l'heure notre vice-président montrera l'étendue et la variété des domaines couverts. C'est surtout grâce à la générosité privée que nous pouvons continuer ainsi à distinguer et récompenser des mérites scientifiques ou civiques ou encore remédier à des situations personnelles difficiles. Je veux en remercier ici nos donateurs. Une autre application notable de la fonction d'évaluation scientifique que nous assumons réside dans les avis que nous devons donner en seconde instance sur les propositions de nomination dans plusieurs grands établissements d'enseignement supérieur et de recherche tels le Collège de France et dans notre participation au conseil qui dirige certaines de ces institutions. Il peut paraître saugrenu que par ces temps de rigueur, les pouvoirs publics aient l'habitude de constituer à grands frais des comités d'experts extérieurs, souvent immédiatement contestés, pour procéder aux innombrables évaluations dont on imagine qu'elles perfectionnent la gestion des choses, alors que ces mêmes pouvoirs disposent gratuitement du vivier des académies. Le paradoxe est d'autant plus étrange et prêt à rire à l'étranger que nombre d'académiciens sont sollicités à titre individuel de donner leur avis, conseil et évaluation précisément par les glorieuses universités anglo-saxonnes que l'on voudrait égaler en France. Cependant, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a confié depuis 2009 à notre académie la charge d'organiser le concours du prix Claude Lévi-Strauss destiné à distinguer chaque année un chercheur d'excellence dans le domaine des sciences humaines et sociales en France. L'an dernier, le prix avait été remis par le ministre lui-même à M. Antoine Compagnon, professeur au Collège de France. Le 29 novembre 2011, le lauréat de 2012 sera désigné avant la fin de cette année. L'Académie, depuis toujours, pratique la recherche et s'attache à l'animer par les groupes de travail qui se forment en son sein et s'associe des collaborations extérieures compétentes et fidèles. Deux groupes se sont réunis très régulièrement cette année. Le groupe de travail que préside notre confrère François Théré sur la réforme du droit des obligations a remis au ministère de la Justice en 2011 ses propositions sur le droit de la responsabilité civile qui ont fait l'objet d'une consultation publique. Un autre rapport vient d'être achevé sur la réforme du régime général des obligations. Le groupe, présidé par notre confrère Bernard d'Espagna, sur l'apport de la physique contemporaine à la théorie de la connaissance, a également poursuivi ses travaux, dont les résultats ont abouti à différentes publications. Il convient de mentionner aussi la parution cette année de l'ouvrage « Le peuple et l'idée de normes » sous la direction de notre confrère Pierre Mazot, qui réunit une réflexion conduite par notre Académie et l'Institut Jean Foyer de droit parlementaire qu'elle parraine. Plusieurs colloques, organisés de concert avec nos confrères des sciences, ont permis d'élargir les échanges entre toutes les branches du savoir qui sont la vertu de l'Institut de France. Ainsi s'est tenu le 26 mars et le 21 mai un colloque en deux parties où se croisaient le point de vue des sciences humaines et celui des neurosciences sur les états modifiés de conscience. Le 9 mai, c'est sur l'enseignement philosophique et les sciences que notre compagnie et l'Académie des sciences réunissaient un colloque accueilli à la Fondation Del Duca, auquel était associée l'Inspection générale de l'Éducation nationale. D'autres colloques se sont tenus en liaison avec des fondations dont nous avons la charge d'attribuer les prix. Le 27 juin, nous avons réuni un colloque très tonique sur l'expérience du réseau GERM, groupe d'entraînement et de réflexion au management des entreprises. Lauréat du prix Olivier Le Serre pour l'encouragement d'une approche humaniste dans le management des entreprises. Ce réseau, qui compte 81 groupes en métropole aux Antilles, en Belgique, est un organisme de formation sur une base associative spécialisé dans l'accompagnement des cadres et des dirigeants dans leurs fonctions de management pour les aider à remettre l'homme au cœur de l'entreprise. La semaine dernière, les 15 et 16 novembre, notre Académie était le maître d'œuvre du colloque sur la défense de l'Europe entre Alliance Atlantique et Europe de la Défense, accueilli par la Fondation Saint-Gervais-Polignac, avec le concours de la Fondation créée par Édouard Bonnefous, qui fut près de 50 ans une des grandes figures de notre compagnie et qui exerça 17 ans la charge de chancelier de l'Institut. Les travaux du colloque donnèrent l'occasion de mettre en lumière l'action d'Édouard Bonnefous en politique étrangère pendant la guerre froide. Lors d'une visite en France de M. Amartya Sen, prix Nobel d'économie, l'Académie a organisé une conférence publique au cours de laquelle l'éminent savant a exposé sa théorie sur le choix collectif et son raisonnement politique. La grande innovation dans l'activité de recherche et d'animation des débats savants que pratique l'Académie a été la mise en œuvre des entretiens académiques selon l'idée qu'avait lancée et inaugurée l'an dernier notre confrère Jean Béchler durant sa présidence. Celui-ci avait prévu, à vrai dire, deux formules différentes. L'une sans désignation particulière, par laquelle chacune des six sections qui composent l'Académie prend la charge de définir l'objet d'une séance et d'en assurer l'illustration. L'autre, intitulée proprement « Entretien de l'Académie », dans laquelle, le lundi matin, à l'initiative entièrement libre d'un académicien, sur un thème de son choix et avec le concours des compétences internes et externes à sa convenance, est réuni un colloque restreint devant un public d'invités. Les deux formules ont stimulé l'inspiration générale et ont adopté l'appellation commune d'entretiens académiques, sauf dans le cas que j'évoquerai un peu plus loin, où les sections ont assuré une séance du programme annuel par le truchement d'un exposé individuel. Les entretiens académiques de l'année écoulée ont porté sur la disqualification des experts, le 28 novembre 2011, à l'instigation de notre confrère Jean Béchler. Un exposé examinait les diverses formes que prend dans les faits la disqualification et les vices des expertises parallèles auxquelles elle conduit, pour se demander si la racine du phénomène résidait dans un déficit de formation et d'information ou dans une dévalorisation insidieuse de la notion même de progrès. Le deuxième exposé approfondissait l'analyse des raisons du phénomène, à partir desquelles le troisième orateur suggérait certaines pistes originales pour y porter remède, en raisonnant en termes de marketing cognitif face à un problème qui est celui d'une concurrence d'idées et croyances sur le marché cognitif. Un deuxième entretien, le 12 décembre, « Mondialisme et déclin » était conçu par notre confrère Georges-Henri Soutou sur l'hypothèse qu'à un certain degré de puissance et de développement, les grands pays ont été poussés à se mondialiser, dépassant ainsi leurs capacités réelles et entamant, sous l'effet de leur surengagement, le processus de leur déclin. Cinq contributions ont discuté le cas britannique, soviétique, américain, allemand et chinois, avant un débat et quelques conclusions générales. Le troisième entretien, quel avenir pour le nucléaire dans la politique énergétique française, occupa toute la journée du 19 mars à l'initiative de notre vice-président, M. Bertrand Collomb. Six contributions ont fait le point sur les problèmes de sûreté, entretien et modernisation des centrales nucléaires, sur la question des économies d'énergie, des énergies renouvelables, en relation avec la protection de l'environnement et de la santé, les coûts et les alternatives. Notre confrère Édouard Brézin de l'Académie des sciences a présenté la position de son Académie sur le nucléaire. À la suite du débat public et de ses propres délibérations, notre Académie a adopté le 26 mars un avis communiqué au pouvoir public et à la presse sur l'énergie nucléaire en France. Elle y affirme que la meilleure stratégie pour la France est de combiner la poursuite d'un programme nucléaire dynamique avec des actions d'économie d'énergie et d'efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables. Le quatrième entretien, États en faillite, dette souveraine et défaillance des États, s'est tenu le 15 octobre à l'initiative de notre confrère Gilbert Guillaume. Deux exposés tirèrent quelques leçons et parallèles édifiants de la cascade des banqueroutes d'État depuis le XVIIIe siècle. Quatre autres contributions examinèrent les enchaînements et mécanismes financiers propres au contexte actuel et portèrent le regard sur l'appareil juridique et les pratiques de négociation et d'arbitrage qui encadrent aujourd'hui les dettes souveraines ou qui pourraient atténuer les conséquences redoutables de la faillite financière d'un État. Un cinquième entretien, l'industrie manufacturière en France, organisé par notre section d'économie politique, statistique et finance, s'est déroulé toute la journée du 22 octobre. Il a été honoré par la présence et un discours du ministre du redressement productif. Il a fait l'objet d'un communiqué de presse. Les propos des six orateurs invités et les débats qui les ont accompagnés se sont rejoints sur le constat de la désindustrialisation en France et de ses effets directs sur l'aggravation du déficit commercial et du chômage, sur le ralentissement de la croissance et de la compétitivité. Ils ont procédé à une analyse précise et sereine des différents facteurs de cet état de choses en comparant avec la situation d'autres pays et en suggérant une série de moyens d'action pour parvenir à une revitalisation du tissu industriel qui est immédiatement nécessaire, mais doit être conduite en sorte de s'assurer une réelle efficience sur le long terme. Notre sixième entretien, relecture de Raymond Aron, « Paix et guerre entre les nations 50 ans après », a eu lieu le 5 novembre à l'initiative de notre confrère Georges-Henri Soutou. Comme il est juste, puisque notre Académie a eu l'honneur de compter Raymond Aron parmi ses membres de 1963 à 1983, ce retour sur la théorie des relations internationales de l'illustre philosophe et sociologue a été conduit surtout par des confrères. Plusieurs ont été ses élèves et perpétuent d'ailleurs dans les pages de la revue Commentaire qu'il avait fondée les lignes de force de sa pensée libérale et critique. Deux autres entretiens, « Les ambiguïtés de la science » et « Démocratie, anticipation de l'avenir » se tiendront les 3 et 10 décembre à l'initiative de notre confrère Jean Béchler. Celui-ci a monté par ailleurs un programme de recherche « Guerre et société » soutenu par la Fondation Del Duca de l'Institut, qui a donné lieu, les 19 et 20 juin, à des journées d'études sur les penseurs de la stratégie. Monsieur Béchler a été invité aussi à assurer la coprésidence du Centre Chine-Europe pour la communication transculturelle, créé en mai à l'Université Polytechnique de Hong Kong, avec un soutien de la Fondation Forum Chine-Europe, abritée par l'Académie. Je fais moi-même partie du comité scientifique d'un projet de recherche de ce centre. La diffusion de nos travaux adopte de nouvelles formes. Ces dernières années, seules les communications hebdomadaires, suivies des questions et réponses, étaient accessibles en format texte sur le site internet de l'Académie et en transmission radio sur Canal Académie, le centre radiophonique de l'Institut. Elles le sont toujours. Mais l'Académie s'est dotée, depuis cette année, d'un bulletin, revue dont le service gratuit est en principe assuré à plusieurs centaines d'organismes. 3 numéros ont déjà paru. Chacun contient une chronique de toutes les activités de l'Académie et 2 dossiers thématiques réunissant des textes présentés lors des entretiens ou lors des séances ordinaires. Une autre partie des textes de même provenance paraîtra sous forme de petits volumes de la collection Débat public publiée par l'Académie chez Hermann. Le premier volume qui vient de sortir et la disqualification des experts. 28 de nos séances hebdomadaires ont été consacrées cette année à une réflexion sur les asymétries et forces neuves du monde actuel. Fidèle à sa vocation première, l'Académie porte une attention continuelle aux problèmes de la société de notre temps, ainsi que l'illustrent les travaux que je viens de mentionner et ceux des années antérieures. Il en va ainsi en fonction des compétences et intérêts très variés de ses membres, sous la nécessité des circonstances, en particulier du fait des difficultés nées de la crise économique et financière mondiale, ou encore par suite de sollicitations spécifiques. Cependant, la place que tient naturellement dans nos préoccupations le domaine français ou l'implication de notre pays dans des questions plus générales conduit notre regard et nos raisonnements à se renfermer dans le champ familier des expériences sociales et des habitudes de l'Europe et de l'Amérique du Nord. J'ai voulu que lors des séances ordinaires de l'année écoulée, nous tentions de prendre une distance par rapport aux événements et défis immédiats afin d'enrichir les données et perspectives de la réflexion qu'on y doit appliquer. Cette distance concernait la méthode et les objets d'observation. L'exploration à laquelle nous nous sommes livrés a laissé de côté l'analyse des concepts, des modèles ou des structures qui soutient d'ordinaire dans les sciences sociales du monde occidental d'aujourd'hui les approches générales synthétiques ou théoriques. En effet, quel que soit le soin qu'on apporte à la définition des termes utilisés, le discours abstrait sur les concepts tend de plus en plus à déformer, à trahir la réalité de la vie présente du monde, spécialement quand l'on doit appréhender par le truchement d'une langue étrangère les réalités de l'existence dans des pays de cultures différentes. Eussions-nous recours au langage des images pour être plus dans le vent en substituant des vidéos et PowerPoints aux grâces austères de nos communications, le dommage serait le même. L'image fige la réalité tout autant que le mot. En outre, elle ne permet pas aux spectateurs aucun dialogue instantané sur le même registre. L'auteur de l'image impose sa vision au spectateur désarmé. Nous en sommes donc restés à la parole, ce saint langage honneur des hommes, comme disait Valérie, car seule la parole permet le débat. Mais nous avons cherché à saisir, autant que les imperfections de notre langue et les limites de notre esprit le permettent, le mouvement des choses et des hommes dans le monde d'aujourd'hui et la configuration des forces qui portent ou conditionnent ces transformations. Cette direction d'enquête m'était inspirée par une fréquentation impénitente de Thucydide et de travaux d'Helléniste relatifs à la formation de la notion grecque de kairos, mot intraduisible, rendu souvent par moments favorables, occasions, ou la fréquentation de travaux sur le passage de la philosophie ionienne, vision de l'univers, à la pensée grecque classique, tournée vers la connaissance de l'homme. Une perspective orientée vers les dynamiques en jeu dans le monde actuel me venait aussi de la lecture assidue des nombreux textes dans lesquels, depuis deux siècles et de toute antiquité, les Chinois se livrent à l'analyse de conjonctures politiques confuses. Dans la bigarrure du réel qu'ils désignaient du terme de poikilia, Thucydide et le génie de son temps s'efforcent de découvrir les jointures par où l'esprit humain peut instaurer sa maîtrise sur les circonstances, les données extérieures, les réalités mouvantes, en vue de succès d'ordre pratique. Pour percevoir le temps propice à l'action sur le monde extérieur, pour en comprendre la configuration et les ressorts, ils mettent en œuvre l'intelligence rusée, technicienne, la métisse, plutôt que la raison spéculative en quête de vérité absolue. Plus anciennement et plus durablement que les Grecs, les Chinois ont coutume, pour guider leur action, notamment dans le domaine public, d'examiner soigneusement ce qu'ils appellent le « che », c'est-à-dire l'état des choses et leur mouvement, leur tendance, leur potentiel, la configuration des forces et des réalités du monde extérieur, l'efficacité qui n'a pas son origine dans une initiative humaine, intentionnelle et clairement identifiée, mais résulte de la disposition des choses. Pour cet exercice et l'utilisation de ces résultats, il déploie une forme d'intelligence ou sagesse, assez proche de l'intelligence rusée des Grecs, soucieuse comme elle, de sentir le terrain, de toucher le concret. Notre examen panoramique et comparé a envisagé les données mondiales fondamentales en matière de population et de ressources matérielles. Le regard s'est porté ensuite, hors du champ familier de l'Europe et de l'Atlantique Nord, à travers le monde, sur la dynamique interne et l'évolution culturelle de différentes sociétés et régions émergentes. Les interventions et débats sont déjà accessibles, ou le seront sous peu, dans nos publications et sur notre site internet. Je mentionnerai simplement ici l'itinéraire que nous avons suivi et les guides avertis qui nous accompagnèrent. Je vous engage vivement à lire leurs textes et tiens à remercier tout spécialement leurs auteurs. Monsieur Henri Léridon, membre correspondant de l'Académie des sciences, et Monsieur Jacques Véron, directeur de recherche à l'INED, en collaboration avec Madame Isabelle Attané, également directeur de recherche à l'INED, nous ont tracé des prévisions raisonnées sur une croissance et des mouvements migratoires de la population mondiale, certes considérables, mais progressifs et gérables. Monsieur Christian Morisson, professeur émérite à l'Université de Paris 1, et Monsieur François Bourguignon, directeur de l'École d'économie de Paris, nous ont montré comment depuis 20 ans, pour la première fois depuis 3 siècles, l'inégalité mondiale mesurée en termes de différence de revenus moyens entre pays a baissé de manière significative, notamment grâce à une diminution du nombre des pauvres et très pauvres en Asie orientale, en grande partie imputable aux effets de la mondialisation. En revanche, des facteurs complexes, les uns spécifiques à certains pays, explique la croissance de l'inégalité des revenus à l'intérieur des pays. Cette inégalité est frappante, surtout dans les pays avancés, où elle renverse une tendance historique, mais elle est notoire dans les pays du Sud. Cette inégalité nationale, dont on doit noter qu'en France, elle s'est accusée moins fortement qu'ailleurs, n'a guère d'incidence sur la tendance générale à la baisse de l'inégalité mondiale entre pays. La hausse de l'inégalité nationale peut d'ailleurs être modérée sans compromettre la croissance par des politiques adéquates de redistribution et de régulation du secteur financier. Sur la question de la dégradation et de l'épuisement des ressources naturelles disponibles pour assurer la prospérité d'une humanité plus nombreuse, M. Pierre Gadonnex, président du Conseil mondial de l'énergie, a souligné que si les réserves d'énergie non renouvelables étaient suffisantes pour couvrir les besoins pendant au moins 2 siècles encore, l'inégalité de leur répartition géographique posait un problème géopolitique et économique. La thèse de la réduction de la consommation d'énergie n'est pas soutenable et d'énormes investissements sont nécessaires qui distinguent soigneusement les technologies économiquement matures. Monsieur François Bersani, secrétaire général du Comité pour les métaux stratégiques, et Monsieur Didier Julienne, expert, ont traité des réserves minières, notamment des métaux et terres rares, indispensables à toutes les nouvelles technologies, du vulgaire téléphone portable aux éoliennes. Ils ont montré que la pénurie ne guette pas, même pour les substances les plus rares, si l'on veille aux économies, aux substitutions et au recyclage. L'eau non plus ne risque pas de manquer, nous a expliqué M. Bernard Barraquet, directeur de recherche au CNRS, mais son exploitation devient de plus en plus difficile. La notion de sécurité hydrique, définie comme l'accès à une eau sûre d'un coût abordable, tout en protégeant et améliorant l'environnement naturel, s'est imposée peu à peu pour guider les politiques de l'eau en Europe. Les politiques les plus économes pratiquent une gestion intégrée et participative à plusieurs niveaux à l'échelle du bassin versant. Le modèle gagne du terrain à l'échelon international et son principe inspire les travaux de la Commission du droit international relatif à l'eau. Monsieur Michel Griffon, directeur général adjoint de l'Agence nationale de la recherche, a précisé les insuffisances et contraintes de la production agricole. Il a souligné qu'une nouvelle technologie en cours de mise au point, qui amplifie les mécanismes de l'écologie et de la biologie, pourrait accroître les rendements et renouveler la fertilité des sols sans nuire à l'environnement. Mais elle devrait s'accompagner de régulations conjointes des politiques agricoles, des politiques commerciales internationales et des politiques de santé publique. Un exposé de M. Christian de Pertuis, professeur associé à l'Université Paris-Dauphine, a introduit une réflexion sur les réalités et incertitudes du changement climatique, ses impératifs en matière de construction du système énergétique et agroforestier, et sur les voies d'action mises en œuvre ou possibles pour adapter le développement général des sociétés à ce changement. Nous avons ensuite pris quelques vues d'ensemble de la géométrie des forces à l'échelle mondiale. Le général Jean-Louis Jourgelin, grand chancelier de la Légion d'honneur, a traité de la question militaire à l'instigation de notre section générale. Il a décrit la transformation de la réalité de la guerre et des armées, mais en soulignant que si la puissance d'une nation repose aujourd'hui sur une combinaison subtile de pouvoirs diversifiés, dans une crise, cette puissance ne reste crédible que soutenue par une réelle capacité militaire. C'est à une lecture politique des pays émergents que nous a convié M. Pierre Morel, représentant spécial de l'Union européenne pour l'Asie centrale. Il a proposé une définition et une typologie de ces pays et cerné la dynamique en jeu. Ce sont des sociétés en évolution rapide, acteurs westphaliens souverainistes qui ouvrent une sorte de deuxième vague anticoloniale dont la revendication commune est une juste recomposition du monde, mais dont les critères de réussite rejoignent les normes occidentales. Dans un groupe qui est loin de s'y limiter aux 5 pays du sigle BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, L'hétérogénéité et les divergences de ces nouveaux acteurs globaux, intervenant sans cohésion véritable en plein désordre mondial, orientent la perspective moins vers l'idée d'un système international multipolaire, inévitablement conflictuel et discriminant, que vers la voie d'une agrégation progressive d'éléments d'une autorité mondiale. C'est du reste le sens des efforts de structuration du G20 en vue d'une gestion partagée des interdépendances qui permettent de surmonter les blocages persistants du système des Nations Unies. Sur les trajectoires intérieures très différentes, mais toutes marquées au sceau de la démocratie du Brésil, de l'Inde et de l'Indonésie, Monsieur Alain Rouquier, président de la Maison de l'Amérique latine, Monsieur Christophe Jaffrelot et Monsieur François Rayon, tous deux directeurs de recherche au CNRS, nous ont apporté leur analyse fondée sur une longue expérience de ces pays. La réorganisation des espaces et des flux économiques dans la vaste région de l'Asie orientale a été examinée par Monsieur François Giboulou, directeur de recherche au CNRS. Elle s'articule autour d'un long corridor maritime jalonné d'une chaîne de métropoles de Tokyo et Vladivostok à la Malaisie, chacune nœud d'un réseau de circulation de capitaux, de technologies et de flux humains. Mais face à la réactivation exubérante de traditions commerciales très anciennes qui évoquent celles de la Méditerranée, l'alliance traditionnelle aussi entre les grandes entreprises chinoises et la puissance d'État, maître absolu du système bancaire, est source de fragilité et de tensions croissantes. Une singularité de la Chine et de l'Inde réside dans leurs nombreuses diasporas répandues à travers le monde, souvent depuis fort longtemps. Ces Chinois et Indiens d'outre-mer sont-ils aujourd'hui des outils ou des partenaires de puissance pour leur métropole? Thierry Sanjouan, professeur à l'Université de Paris 1, a comparé pour nous aussi bien les stratégies successives des États d'origine envers leur diaspora que le rôle crucial de cette dernière dans leur émergence respective, en notant que malgré les différences, les deux diasporas s'intègrent mais ne s'assimilent pas dans les pays où elles s'établissent. La Chine, plus que l'Inde, s'est enrôlée au service de son développement interne, le potentiel intellectuel et technique de ses nationaux restés à l'étranger, en les insérant dans les réseaux qui irriguent en permanence ses propres chantiers économiques et scientifiques. Un exemple spécifique de cette efficacité a été donné dans le tableau vécu et très précis que M. Stéphane Grimbach, directeur de recherche à l'INRIA, a brossé de l'avance remarquable conquise par les Chinois dans les technologies de l'information, de leur application à l'ensemble du champ scientifique, de l'économie d'innovation et des asymétries qu'elle génère. Outre des évolutions qui accroissent les forces matérielles dans certaines régions du monde, il est nécessaire de prendre quelques mesures de l'imaginaire et des représentations qui animent aujourd'hui leur société. Pour le monde chinois, M. Jean-François Bilter, membre correspondant de notre académie, a évoqué la succession des schémas qui ont orienté en Chine et hors de Chine la perception du rapport entre le passé chinois et les bouleversements du présent. Il a défendu l'idée que, sous l'angle de la philosophie politique et sur la longue durée, le principe générateur de la constitution sociale et politique en Chine obéit à la catégorie organisatrice fondamentale du yin et du yang. Cette catégorie, héritée de la pensée ancienne, qui modèle le cours et l'invention du changement, divise la réalité en deux sphères liées entre elles par des interactions aux formes asymétriques et mouvantes. Une sphère du yang, celle de l'unité, de l'universel, qui domine le divers. Une sphère du yin, divisée, créative et diverse, qui tend au désordre et a besoin d'être organisée. Dans son panorama du paysage religieux de l'univers chinois d'aujourd'hui, M. Vincent Gossard, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, a montré en Chine et à Taïwan, spécialement au sein du bouddhisme, un foyer de création religieuse dont les innovations essaiment rapidement à travers le monde grâce à la diaspora et qui est le produit des sécularismes modernes. L'image de soi que peut révéler la littérature a été analysée pour la Chine par M. Sébastien Weig, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, qui a insisté sur les ruptures récentes, affirmation d'un amoralisme, d'une marginalité, de l'absurdité de la période maoïste en réaction à une visée moralisante, héroïque ou hédoniste de la littérature ordinaire. La littérature vernaculaire indienne qu'a présentée Mme Annie Montaud, professeure à l'Institut national des langues et civilisations orientales, découvre un imaginaire différent de celui des auteurs indiens écrivant en anglais. Un univers en contact aisé et naturel avec les grands mythes du passé, avec toutes les croyances et la diversité des populations, un monde où le sujet est englobé dans la réalité. Sur les représentations dans les grands pays musulmans, Michel Boivin, chargé de recherche au CNRS, a montré la grande diversité de l'islam et de ses courants de pensée au Pakistan. Elle fait la fragilité de ce pays qui n'a jamais pu décider s'il serait un État musulman ou un État pour les musulmans. Le sens et la puissance du salafisme dans le monde arabe ont été éclairés par Bernard Rougier, directeur du Centre d'études et de documentation économique, juridique et sociale au Caire. Il a précisé la filiation intellectuelle ancienne de cette réinvention d'un islam authentique, ses diverses formes et les ressorts populistes grâce auxquels sa mouvance djihadiste, en réalité minoritaire, gagne des adeptes. À propos des tentations musulmanes de la Turquie, M. Gilles Doronsoro, professeur à l'Université de Paris 1, a relevé que la plupart des problèmes extérieurs de la Turquie et sa hantise d'une division territoriale par manipulation de ses minorités internes sont le legs de l'Empire ottoman. Malgré ses efforts pour développer une politique globale, la Turquie semble vouée à rester une puissance moyenne, faute de pouvoir s'affirmer comme un centre. En effet, une ambiguïté permanente règne dans l'opinion et la politique turque du fait d'un triple registre identitaire. Identité européenne liée à l'héritage kémaliste de modernisation, identité turque qui incite à rallier les minorités turques ou turcophones de l'extérieur, identité religieuse de l'islam sunnite qui est en fait une religion officielle car la laïcité turque est surtout une volonté du politique de contrôler le religieux. Trois autres communications viendront en décembre compléter cette réflexion en abordant les changements politiques dans le monde arabe, la question de l'effacement de la souveraineté des États et celle de l'extension d'une communauté universelle de valeurs. Faute de temps, notre exploration est restée évidemment partielle. En bilan provisoire, je relèverai deux points pour conclure ce propos. Tout d'abord, au rebours des alarmes et du pessimisme qu'engendre généralement la confrontation des conjonctures du moment, dans notre investigation plus large, il n'est pas apparu de grands problèmes mondiaux dont la solution ne semble concevable grâce à l'usage concerté de la raison et des méthodes de la science. Par ailleurs, la vitalité et la puissance qui se manifestent aujourd'hui dans de nombreuses parties du monde, longtemps réputées endormies ou malades, ne semblent pas simplement l'effet de l'avantage comparatif des bas salaires et d'un cadre juridique aléatoire. On les voit portés par une entreprise méthodique de formation scientifique et professionnelle des hommes, et même par des efforts d'innovation sociale et politique, où nos sociétés européennes peuvent trouver matière à comprendre leurs propres défauts et à s'amender. Merci de votre attention. Notre vice-président a la parole pour la lecture du palmarès.
Madame le Président, messieurs les secrétaires perpétuels, monsieur le chancelier, mes chers confrères, mesdames, messieurs. C'est en cette circonstance solennelle et dans ce cadre prestigieux que l'Académie rend public chaque année, conformément à ses statuts, le palmarès des prix, bourses et médailles qu'elle attribue. Par la distribution de ces prix, l'Académie remplit l'une des missions de service public que lui a confiée la nation. Je cite « suivre, conformément aux lois et arrêtés du directoire exécutif, les travaux scientifiques et littéraires qui auront pour objet l'utilité générale et la gloire de la République ». Ce sont les termes de la loi du 3 Brumaire en 4, ce qui est traduit ainsi en langage plus moderne par le titre 4 de la loi du 18 avril 2006. Les académies ont pour mission de contribuer à titre non lucratif au perfectionnement et au rayonnement des lettres, des sciences et des arts. Toutefois, notre Académie ne le fait que grâce à la générosité de celles et de ceux qui, en lui accordant leur confiance pour perpétuer leur mémoire ou leur action, ont décidé d'abriter en son sein des fondations. Certains de ces fondateurs sont parmi nous aujourd'hui, physiquement ou en pensée. Permettez-moi de leur adresser collectivement mes salutations. Aujourd'hui est donc pour nous tous le jour des lauréats et de la célébration de leurs mérites. Je vais donc maintenant lire l'ensemble du palmarès en commençant par les grands prix décernés par notre compagnie. Je remercie les lauréats de bien vouloir se lever quand je leur indiquerai et pas avant, de même que je remercie par avance chacun de vous de bien vouloir les applaudir, mais pas avant. La présentation que je ferai de ces prix sera thématique. Toutefois, je tiens d'abord à mettre à l'honneur le travail de fondation auquel notre compagnie accorde une importance toute particulière. Ce sont les fondations Édouard Bonnefou. Édouard Bonnefou, membre de notre compagnie de 1958 à 2007, presque un demi-siècle, chancelier de l'Institut de France de 1978 à 1993, a créé deux fondations. La première au sein de notre académie en 1997, et la seconde, par testament, abritée par l'Institut de France. Ces deux fondations attribuent chaque année 4 prix. Le prix Édouard Bonnefou de l'Académie est attribué cette année à Mathieu Laine pour la direction du Dictionnaire du libéralisme, publié chez Larousse en 2012. Le libéralisme était un thème cher à Édouard Bonnefou. Le grand prix de la Fondation Édouard Bonnefou de l'Institut de France est attribué cette année à William Newton pour l'ensemble de son œuvre consacrée à la vie de cour à Versailles au XVIIIe siècle. Cette fondation distribue également 3 autres prix sur proposition de 3 sections de notre compagnie. Sur proposition de la section de philosophie, un prix est attribué à Maurice Clavelin pour l'ensemble de son œuvre d'histoire et de philosophie des sciences, centrée notamment sur les travaux de Galilée. Sur la proposition de la section de législation, droit public et jurisprudence, un prix est attribué à l'Académie de droit international de La Haye, qui s'est engagée à utiliser le montant de ce prix pour distribuer des bourses à des étudiants francophones. Enfin, sur la proposition de la section générale, un prix a été attribué à Philippe Iribarne pour l'ensemble de son œuvre, tout entière centrée sur l'articulation entre spécificités culturelles et modèles de management des entreprises soumises à l'économie de marché. Ces 4 prix sont remis aux lauréats la semaine prochaine, au cours d'une cérémonie particulière. Je demande à ceux des lauréats qui ont pu être présents aujourd'hui de bien vouloir se lever et je vous demande de les applaudir. La Fondation culturelle franco-taïwanaise a été créée en 1995. Elle distribue chaque année 2 prix à des personnes ou des institutions dont les œuvres ou l'action mettent en valeur les relations entre notre pays et Taïwan. dont j'ai le plaisir de saluer le représentant à Paris, M. Michel Lu. L'un de ces prix est destiné à couronner un Français, l'autre une personne appartenant à un autre pays d'Europe. Les prix sont attribués pour la France à Angèle Pinault et Isabelle Rabu, tous deux éminents sinologues, elle à l'INALCO, lui à l'Université Michel de Montaigne de Bordeaux 3. Il contribue à faire mieux connaître la littérature taïwanaise dans notre pays. Pour l'Europe, c'est le journaliste belge Philippe Paquet qui a été distingué. Il est en particulier l'auteur d'une biographie de Madame Chiang Kai-shek. Ces deux prix seront également remis lors d'une cérémonie particulière qui sera organisée lors du prochain séjour en France de Madame le ministre de la Culture de Taïwan qui co-préside avec notre secrétaire perpétuel la Fondation. Je demande à Madame Rabu de bien vouloir se lever afin que nous puissions l'applaudir. Après les prix de ces deux fondations spécifiques, venons-en maintenant à la lecture de l'ensemble du palmarès. 6 prix ont été attribués à des ouvrages philosophiques. Le prix Louis Liard est attribué à Patricia Kawark-Leiter pour son ouvrage « Théorie quantique et philosophie transcendantale, dialogue possible, Paris Hermann 2012 ». Je remercie beaucoup la lauréate d'avoir tenu à venir spécialement du Brésil pour recevoir cette distinction. Le prix Danian Bouvray est attribué à Étienne Bimbenet pour son ouvrage « L'animal que je ne suis plus, Paris chez Gallimard 2011 ». Le prix Charles Lévesque est attribué à Jean-Paul Coujou pour les 3 tomes de « Pensée de l'être et théorie politique, le moment suarésien », publié à Louvain et à Paris aux éditions Peters en 2012. Le prix Saint-Tour est attribué à Elisabeth Dufourcq pour l'invention de la loi naturelle, Paris, Bayard 2012. Le prix Victor Delbos est attribué à Joseph Mélez-Mandzejewski pour « Un peuple de philosophes aux origines de la condition juive », publié à Paris chez Fayard en 2012. Le prix Gegner est attribué à Frédéric Haït-Touati pour « Conte de la Lune, essai sur la fiction et la science moderne », publié à Paris chez Gallimard en 2011. Je demande à ces lauréats de bien vouloir se lever afin que nous puissions les applaudir. Vous voyez que l'assistance apprécie beaucoup la philosophie. Dans le domaine de l'histoire littéraire, ont été attribués le prix Pierre-Georges Castex de littérature française à Gérard Ferrérol pour l'ensemble de son œuvre, le prix Joseph Saillet à Michel Delon pour le principe de délicatesse, libertinage et mélancolie au XVIIIe siècle, publié à Paris chez Albin Michel en 2011, le prix Jean Bernat et Ferrari Doria à Alexandre de Vitry pour l'invention de Philippe Muret, publié à Paris au Carnet Nord en 2011. Je demande aux lauréats de bien vouloir se lever et je vous demande de les applaudir. Dans le domaine de la sociologie et de l'anthropologie, le prix Émile Girardot est attribué à Brigitte Feuillet-Liger pour l'ensemble de ses travaux en bioéthique. Le prix Maison Dieu est attribué à Jacqueline de Guise-Leroy pour les solidarités à l'épreuve de la pauvreté, expériences anglaises et françaises au XIXe et XXe siècle, publié à Paris chez L'Harmattan en 2012. Le prix Paul-Michel Perret est attribué à Emmanuel Todd pour le premier tome consacré à l'Eurasie de l'origine des systèmes familiaux, publié à Paris chez Gallimard en 2011. Le prix Ernest Lemonon est attribué à Isabelle Attané pour son ouvrage « Au pays des enfants rares, la Chine vers une catastrophe démographique », publié à Paris chez Fayard en 2011. Le prix Paul Vignier-Docton est attribué à Nicolas Von Arx pour « Le vaudou haïtien entre médecine, magie et religion », publié à Rennes aux presses Université Laval en 2012. Je demande à ces lauréats de bien vouloir se lever afin que nous puissions les applaudir. Dans le domaine des sciences juridiques, le prix Charles Aubert Droit est attribué à Marceau Long pour l'ensemble de son œuvre. Monsieur le vice-président, puisque ce titre de vice-président du Conseil d'État est bien plus prestigieux que beaucoup de présidences, monsieur le vice-président, comme le rappelait notre confrère Pierre Delvolvé dans son rapport, notre compagnie aurait pu, il y a longtemps, attribuer un prix aux grands arrêts de la jurisprudence administrative dont vous avez été, avec Prosper Veil et Guy Bréban, le premier auteur. Vous auriez pu également être candidat et élu à l'Académie, comme l'ont été plusieurs de vos prédécesseurs et votre successeur direct à la tête du Conseil d'État. Dans l'un et l'autre cas, les circonstances ne s'y sont pas prêtées. En vous attribuant aujourd'hui le prix Aubert pour l'ensemble de votre œuvre et de votre action, nous ne reconnaissons pas simplement votre carrière remarquable au service de l'État, ni votre conception pacificatrice des rapports sociaux et du rôle de l'administration et de l'État, nous souhaitons réparer nos rendez-vous manqués et saluer celui qui aurait pu être des nôtres. Je vous prie, monsieur le vice-président, de bien vouloir vous lever et d'accepter nos applaudissements. Le prix Choukri-Gardaï est attribué au professeur Philippe Mallory pour l'ensemble de son œuvre qui a embrassé l'intégralité du droit civil français. Le prix Francis Durieux est attribué à Frédéric Polo-Dulian pour son épais traité sur la propriété industrielle publié à Paris chez Economica 2011. Le prix Adrien Duvant est attribué à Ali Megzani pour l'État inachevé, la question du droit dans les pays arabes, chez Gallimard, 2012. Quatre thèses ont également été récompensées dans ce domaine. Le prix Charles Dupin est attribué à Suzanne Lequette pour sa thèse « Le contrat à coopération, contribution à la théorie générale du contrat » soutenue à l'Université Paris-Panthéon Assas. Le prix Joseph Hamel est attribué à Arnaud Gildemeister pour sa thèse « L'arbitrage des différents fiscaux en droit international et d'investissement » soutenu devant les universités de Paris-Est-Marne-la-Vallée et de Münster. Le prix Texier est attribué à Alexandre Mangiavillano pour sa thèse « Le contribuable et l'État, l'impôt et la garantie constitutionnelle de la propriété en Allemagne et en France » soutenu à l'université Paul Cézanne, ex-Marseille 3. Enfin, le prix Corbet est attribué à Jonas Knetcht pour sa thèse « Le droit de la responsabilité et les fonds d'indemnisation » analyse en droit français et allemand, soutenue devant l'université Panthéon Assas et l'université de Cologne. Je demande à ces lauréats de bien vouloir se lever et je vous remercie de les applaudir. Dans le domaine des sciences économiques, le prix Zerili Marimo est distribué chaque année grâce à la générosité de la baronne Marussia Zerili Marimo en mémoire de son époux qui fut l'un de nos membres correspondants. Il est attribué à Philippe Manière pour l'ensemble de son œuvre, et plus particulièrement pour son dernier ouvrage, « Le pays où la vie est plus dure », publié à Paris chez Grasset en 2012. Monsieur, votre œuvre dans son ensemble vise à montrer les bienfaits de l'économie de marché et à analyser les limites et le coût souvent inutile des politiques publiques interventionnistes, notamment en matière de fiscalité, de dépenses publiques et de réglementation. Elle répond en cela parfaitement au souhait de la donatrice qui veut que ce prix couronne un économiste illustrant la pensée libérale. Le prix Luc Durand-Réville est attribué à Christian Morisson pour l'ensemble de son œuvre en économie du développement. Le prix Grammaticakis Neumann est attribué à Christian Saint-Étienne pour son ouvrage L'incohérence française, publié chez Grasset en 2012. Le prix L'Odyssée de Panorome est attribué à Abhijit Banerjee et Esther Duflo pour leur ouvrage « Repenser la pauvreté » publié au Seuil en 2011. Le prix Léon Fauché est attribué à Patrick Artus et à Marie-Paul Virard pour leur ouvrage « La France sans ses usines » publié chez Fayard en 2011. Enfin, le prix Rossi est attribué à l'historien Jérôme Grondeux pour son ouvrage « Socialisme, la fin d'une histoire ?» publié chez Payot en 2012. Je demande à ces lauréats de bien vouloir se lever afin que nous puissions les applaudir. Dans le domaine de la réflexion sur la gestion des entreprises et le management, le prix Olivier Le Serre, doté par le groupe Lafarge, contribue à mettre en lumière les idées d'Olivier Le Serre, qui fut président de Lafarge, concernant le management humaniste. Cette année, franchissant frontières et cultures, il a été décidé d'attribuer ce prix à Vinit Nayar, dirigeant d'entreprise indien, pour son expérience managériale à la tête de HCL Technologies. Expérience décrite dans son ouvrage au titre provocateur « Les employés d'abord, les clients ensuite. Comment bouleverser les règles du management ?» dont la traduction française est parue l'an dernier aux éditions Diateino. Je remercie M. Chris Connors, directeur de HCL pour la France et le Benelux, de représenter l'auteur qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Un colloque sera organisé le 9 avril prochain autour du livre et de Vinit Nayar lui-même. Je vous demande de bien vouloir vous lever et je vous remercie de l'applaudir. Où est-il ? Apparemment, il n'est pas là. Bon, eh bien, écoutez. Alors, on a applaudi Vinit Nayar en son absence. Dans le domaine des sciences historiques et géographiques, deux prix de consécration ont été attribués à deux grandes figures de l'historiographie française. Le prix Madeleine Lorrain-Portemère à Daniel Roche pour l'ensemble de son œuvre sur la France des Lumières, sa culture matérielle, ainsi que récemment la culture équestre. Et le prix Charles Aubert Histoire à Alain Corbin pour l'ensemble de son œuvre novatrice consacrée à l'histoire des représentations et à l'historicité des sens et de la sensibilité. De plus, le prix du baron de Courcelles est attribué à Georges Sokolov pour « Nos ancêtres, les nomades », l'épopée indo-européenne, chez Fayard en 2011. Le prix Gustave Schex d'Est-Ange est attribué à Osmo Pekkonen pour « La rencontre des religions autour du voyage de l'abbé Réginald Outhier en Suède en 1736-1737, publié aux presses universitaires de Laponie », en 2010. Le prix de la Fondation du chanoine Delpoche de l'Institut de France est attribué à Mathieu Brejon de Lavernier pour son Histoire des filles de la charité, publié chez Fayard en 2011. Le prix Drouin de Luis est attribué à Jean-Pierre Bois pour La paix, Histoire politique et militaire, publié chez Perrin à Paris en 2012. Le prix Gabriel Monod est attribué à Jean-Paul Cointet pour Hippolyte Taine, un regard sur la France, publié également chez Perrin en 2011. Le prix Torel est attribué à Jean-Claude Yon pour Une histoire du théâtre à Paris, de la Révolution à la Grande Guerre, publié chez Aubier en 2012. Le prix Jean Saint-Denis est attribué à Olivier Cibre pour son ouvrage Le Saint-Siège et l'Extrême-Orient, Chine, Corée, Japon, de Léon XIII à Pie XII, soit de 1880 à 1952, publié à Rome dans la collection de l'École française de Rome en 2012. Le prix Joseph Dutheil est attribué à François David pour son ouvrage « John Foster Dulles, secrétaire d'État, père de l'Europe et Cold Warrior », publié à Paris aux publications de l'Université Paris-Sorbonne en 2011. Le prix François-Joseph Audifred est attribué à François Azouvi pour son très récent ouvrage « Le mythe du grand silence, Auschwitz, les Français, la mémoire », publié chez Fayard en 2012. Le prix Hercule Catenacci est attribué à Nicolas Crispini pour la direction de l'album « Glacier, passé présent du Rhône au Mont-Blanc », publié par Slatkin en 2010. Le prix Carlier, enfin, est attribué à Magali Regezazit pour Paris Coultil, publié chez Fayard en 2011. Je demande aux lauréats de bien vouloir se lever afin que nous puissions les applaudir. Trois prix ont été attribués à des personnes ou des ouvrages en lien avec la construction européenne. Le prix Daniel Strasser, créé par la princesse Radzivill, que je salue, en mémoire de son époux, est attribué à Son Excellence Madame Jolanta Balsiunienė, ambassadeur de Lituanie en France, pour son engagement en faveur de la construction européenne et plus particulièrement pour son action constante pour l'intensification des relations entre son pays et le nôtre. Le prix Louis Marin est attribué à Luc Van Middelaar pour la traduction française de son ouvrage « Le passage de l'Europe, histoire d'un commencement », publié chez Gallimard en 2011. Je le remercie d'avoir distrait un peu de son temps pour être parmi nous cet après-midi. Le prix Maurice Beaumont, remis jusqu'à l'an dernier par l'Association des Amis de Maurice Beaumont, mais qu'il est dorénavant par notre Académie, est attribué à Hélène Miard-Delacroix, auteure du volume 11 de l'Histoire franco-allemande, en cours de publication aux presses du Septentrion, intitulé « Le défi européen de 1963 à nos jours ». Je demande à ces lauréats de bien vouloir se lever afin que nous puissions les applaudir. Deux thèses abordant des questions d'éducation ont été distinguées. Le prix Louis Cros, que l'Académie gère en partenariat avec le Comité universitaire d'information pédagogique, est attribué à Sophie Orange pour sa thèse novatrice soutenue à l'Université de Poitiers, l'autre supérieure, aspiration et sens des limites des étudiants en BTS. La bourse de la Fondation Araxi-Torossian est attribuée à Jérémy Dubois pour la publication de sa thèse soutenue à l'École pratique des hautes études, enseigner l'italien en France de la fin du 19e siècle à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, entre enjeux disciplinaires et relations franco-italiennes. Je demande à ces lauréats de bien vouloir se lever, afin que nous puissions les applaudir. Deux prix récompensent des ouvrages relatifs à la chose militaire. Le prix Edmond Fréville-Pierre Mesmer est attribué à Lars Vedin, Marianne et Athéna, la pensée militaire française du XVIIIe siècle à nos jours, publié chez Economica en 2011. Et le prix Valmy, doté par le cercle Esprit de Défense, est attribué à Alexia Delrieux et Sophie de Menton pour leur ouvrage destiné à la jeunesse, L'Armée, publié à Paris par Gallimard Jeunesse en 2011. Je demande à ces lauréats de bien vouloir se lever et nous allons les applaudir. Dans le domaine religieux, nous avons attribué le prix René Laurentin Pro Christo au père Étienne Vétot pour son traité « Du Christ à la Trinité, penser les mystères du Christ après Thomas d'Aquin et Balthazar », publié à Paris aux éditions du Cerf en 2012. Et le prix Gallet est quant à lui attribué au Centre de Recherche et d'Action Sociale, représenté par son directeur le père Bertrand Herriard-Dubreuil, pour son action séculaire en faveur de la diffusion et illustration de la doctrine sociale de l'Église. Je demande aux lauréats de bien vouloir se lever. Nous attribuons également des prix à des institutions publiques ou des associations qui travaillent chacune à leur niveau dans l'intérêt général. Le prix Lucien Dupont, dont le but est de saluer tout effort visant à faciliter les relations des citoyens avec l'administration, est attribué à la Direction de l'information légale et administrative, représentée par M. Didier François, son directeur adjoint, pour l'espace réservé aux associations sur le site internet www.servicepublic.fr. Le prix René-Joseph Laufer est attribué au Centre Ressources Jean Bergeret de Lyon, pour l'ensemble de son action en faveur de la prévention des conduites à risque et en particulier des suicides. Je remercie Madame Isabelle Bouet-Rivoire de le représenter aujourd'hui. Le prix Salvan est attribué pour l'ensemble de son action au peloton de gendarmerie de haute montagne de Chamonix, représenté par son commandant, le chef d'escadron Jean-Baptiste Estachy. Le deuxième prix Texier est attribué à l'Association pour la sauvegarde de l'Église de Villevillon dans l'Eure-et-Loire, représentée par son président, Monsieur Jean Le Teinturier Laprise. Enfin, le prix Claude Berthaud de l'Institut de France est attribué à l'Association des Amis de l'île du large Saint-Marcouf dans la Manche, représentée par son président, Monsieur Hugues Dupuis. Je demande à ces lauréats de bien vouloir se lever et je vous demande de les applaudir. Enfin, une dernière catégorie de prix reconnaît des mérites personnels de différentes natures. Le prix Tanès est attribué à Marie-Josée Jonxy-Montastruc, ancien conseiller principal au service juridique de la Commission des communautés européennes, pour son action en faveur de la condition féminine, Madame le Président, en liaison avec le groupe européen des femmes diplômées des universités. Le prix Malouet est attribué à Michel Emmanuel, professeur agrégé d'histoire au Collège Stanislas à Paris, en marque d'estime publique. La bourse triennale Barthélémy est attribuée à Juliette Guichardet, élève au lycée Henri IV, qui a obtenu cette année le premier prix en géographie et le troisième prix en histoire au concours général, il faut le faire. Le prix Dulac est attribué à Hakan Kavdar pour avoir sauvé à Strasbourg une femme menacée de mort par son compagnon. Enfin, le prix Bernard Destremo, créé par notre regretté confrère pour couronner un sportif ayant su concilier sport de haut niveau et études supérieures, est attribué à Thomas Faucheron, champion de tir à l'arc et étudiant à l'EDEC. Je demande à ceux des lauréats qui ont pu être là de se lever et je vous suggère de les applaudir. Enfin, sans distribuer de prix, trois fondations abritées par l'Académie mènent des actions chacune dans leur domaine. La Fondation pour l'avenir de la relation, créée par André Lévesque, subventionne des actions et des recherches qui se situent dans la continuité de l'œuvre du fondateur, à savoir la création de projets à partenaires multiples, potentiellement en conflit, et l'étude des valeurs communes à l'humanité. La Fondation pour le progrès en éducation, créée par Sylvaine Marandon, repère et aide des expériences innovantes en matière de pédagogie. Et nous avons également la Fondation pour le développement de l'enseignement international. L'Académie a également distribué au cours de l'année 61 000 euros en aide sociale à des veuves en difficulté, conformément aux vœux de généreux philanthropes sur les revenus des fondations d'Aigremont, Schlumberger et Carnot. Je renouvelle au nom de tous mes confrères mes félicitations aux lauréats de l'année 2012 et je les remercie de contribuer chacun à la place qui est la sienne, au progrès de la connaissance, au mieux-être de tous, ainsi que la gloire de notre nation et notre culture. Madame le Président vous remettra médailles et diplômes à l'issue de la séance, dans la salle Comtesse de Caen, où se déroulera la réception à laquelle vous êtes tous conviés.
Merci beaucoup, cher vice-président. Je passe maintenant la parole à notre secrétaire perpétuel pour la lecture de sa notice.
Merci, Madame le Président, Monsieur le Chancelier de l'Institut de France, Mesdames et Messieurs, Messieurs les secrétaires perpétuels, mes chers confrères, vous connaissez la grande nouvelle, la morale fait son retour. Elle sera bientôt enseignée, nous dit-on, à tous les niveaux de notre éducation nationale. À dire vrai, elle y était déjà revenue, il y a peu, sous la forme d'un cours d'instruction morale et civique à l'école primaire. Mais ils viennent d'être décidés, à juste titre, d'amplifier le mouvement et de concevoir un programme obligatoire de morale pour chacune des classes du collège et du lycée. L'Académie des sciences morales et politiques, qui comprend une section de morale et qui a toujours compté dans ses rangs nombre de grands moralistes, oublierait son rôle si elle n'apportait sa contribution à la réflexion en cours et si elle n'ajoutait sa pierre à la refondation d'un enseignement longtemps considéré comme le socle de la société moderne. Je le ferai, si vous le permettez, avec la compétence supposée qui est originellement la mienne, celle d'un professeur de lettres. Avant d'examiner comment enseigner la morale, encore faut-il se demander pourquoi l'enseigner. Ou plutôt, peut-on se passer d'une propédeutique de la morale ? Pendant des siècles, la question n'avait pas lieu d'être posée. D'une part, l'instruction morale au sens strict était assurée par la religion. D'autre part, une éducation morale au sens large était dispensée à travers la rhétorique. Le fondement historique de cette discipline a toujours été moral, tel que Cicéron l'avait formulé vir bonus dicendi peritus, un homme de bien, capable de bien parler. Cet idéal a été christianisé dès l'Antiquité tardive. Revivifié par l'humanisme, il s'est imposé pour longtemps sous la forme de la fameuse classe de rhétorique, la rhéto, dont nous parle encore le dernier livre d'Antoine Compagnon. De la narration à la plaidoirie, de la lettre à l'éloge, tout le travail rhétorique organisait une réflexion à caractère moral. Elle se fondait sur un exemple, l'exemplum, et la rhétorique était dès lors une école de discernement, un art de la controverse, une formation à l'argumentation, tout autant qu'à l'éloquence. Quant à savoir si cette antique morale des lettres est religieuse ou laïque, la question ne se posait pas davantage. L'évêque Fénelon, précepteur du duc de Bourgogne, donne à son élève une épopée homérique et païenne, avec les aventures de Télémaque. Toute l'ancienne France catholique prend Plutarque et Cicéron comme bréviaire, de même que toute la France laïque du XIXe siècle admirait Bossuet. En 1762, il y a tout juste 250 ans, Rousseau reprit à nouveau frais la question du bien fondé de l'enseignement moral. Et, à contre-courant des penseurs de son temps, il propose une réponse étonnante. Dès 1750, il s'est fait connaître par un concours académique à Dijon, dont il fut lauréat, ce qui ne l'empêcha pas de tenir plus tard des propos acerbes contre les académies. Le sujet du concours était de savoir, je cite, si le rétablissement des sciences et des arts avait contribué à épurer les mœurs. Le candidat avait répondu sans embâge par la négative. Je cite, « On n'a jamais vu de peuple, une fois corrompu, revenir à la vertu. Il n'y a plus de remède, à moins de quelques grandes révolutions, presque aussi à craindre que le mal qu'elle pourrait guérir. » Perspicace prophétie des terribles années 1790. En 1762, en même temps que le contrat social, paraît Émile ou de l'éducation. Deux siècles et demi plus tard, rouvrons le livre et lisons. Depuis des temps infinis, il n'y a qu'un cri contre la pratique établie, sans que personne s'avise d'en proposer de meilleur. La littérature et le savoir de notre siècle tendent beaucoup plus à détruire qu'à édifier, dit Rousseau. À ce travers de l'éducation, Rousseau oppose un autre, un art de former les hommes. Au fil des pages, il trace un cursus idéal, celui d'un enfant pris dès la naissance, élevé pas à pas selon la nature et protégé de la civilisation. La première éducation, écrit Rousseau, doit être purement négative. Elle consiste non point à enseigner la vertu, ni même la vérité, mais à garantir le cœur du vice et l'esprit de l'erreur. Voilà donc posé ce grand principe de l'éducation négative. Sous la plume de Rousseau, cette méthode consiste à placer l'enfant dans de telles circonstances qu'il puisse apprendre, par son expérience personnelle, sans le surcours des livres et des leçons, ce qu'il lui importe le plus de savoir, y compris l'utilité de pratiquer certaines vertus morales pour vivre en paix avec ses semblables. Un chapitre entier de l'Émile, connu sous le titre de « Profession de foi du vicaire savoyard », critique les raisonneurs didactiques, les prophètes dogmatiques, pour proposer un retour à soi, illuminé par cette lumière intérieure qui nous invite au bien et à l'empathie universelle. Dans ce système qui isole l'homme, l'apprentissage des langues et des lettres devient inutile. Il laisse la place à la géométrie, à la géographie, à la cosmographie, aux sciences en général. Je cite encore. « Voyez un chat entrer pour la première fois dans une chambre, raconte le maître à Émile. Il visite, il regarde, il flaire, il ne reste pas un moment en repos, il ne se fie à rien qu'après avoir tout examiné, tout connu. Ainsi fait un enfant, commençant à marcher et entrant pour ainsi dire dans l'espace du monde, les premiers mouvements naturels de l'homme, étant donc de se mesurer à tout ce qui l'environne. Sa première étude est une sorte de physique expérimentale relative à sa propre conservation, dont on ne le détourne par des études spéculatives avant qu'il ait reconnu sa place ici-bas. » Fin de citation. Rousseau, vous le savez, accompagne sa démonstration d'une diatribe contre la morale et contre les prêcheurs, la morale prémâchée et théorique des fables de La Fontaine, dont les allégories, l'ironie, le vocabulaire lui paraissent trop complexes et trop ambigus pour être compris par les enfants. Rousseau préconise de conformer l'éducation à l'ordre d'apparition naturelle des facultés de l'homme. On a tort de chercher toujours l'homme dans l'enfant. On pense à ce qu'il est avant que d'être homme. Tout l'art de l'éducateur est d'attendre le bon moment pour solliciter telle ou telle aptitude. Je cite encore, « La plus utile des règles de l'éducation, ce n'est pas de gagner du temps, c'est d'en perdre. » Quel est donc ce bon moment propice à l'instruction morale? Question inutile pour le maître d'Émile. L'homme de la nature étant naturellement bon, son éducation, selon Rousseau, doit constituer non à guérir les vices du cœur humain, puisqu'il n'y en a point naturellement, mais à les empêcher de naître et à tenir exactement fermées les portes par lesquelles ils s'introduisent. Ainsi, fermer la porte au vice dispensera d'introduire la vertu. On reconnaît la litanie rousseauiste, tout est bien sortant des mains de l'auteur des choses, tout dégénère entre les mains de l'homme. Rassurez-vous, le disciple, le maître et le traité relèvent évidemment de l'imaginaire. Émile n'est pas un mode d'emploi à prendre au pied de la lettre. C'est une acrobatie rusée visant à rendre compatible, comme par miracle, la directive du maître et l'autonomie de l'enfant. Hélas, plus tard, diverses doctrines pédagogiques crurent pouvoir s'en inspirer directement pour en tirer un système applicable. Elles firent réduire les recettes, réduire comme on dit en cuisine. Elles pensèrent que laisser libre cours à la spontanéité de l'enfant suffirait pour ouvrir la voie à des acquisitions authentiques et complètes. Le puérocentrisme de Rousseau a inspiré tous les mouvements pédagogiques qui prônent que l'enfant construise seul son savoir, choisisse ses procédures, s'approprie à sa guise ses connaissances pour devenir parfait. Quitte à décevoir les néo-rousseauistes, on se méfiera tout de même d'une confiance angélique dans l'autonomie d'un enfant inventeur de son propre projet, selon son instinct immédiat. De la nature à la jungle, il n'y a qu'un pas, car la liberté n'est pas un point de départ, mais une ligne d'arrivée. À la fin de l'Émile, le gouverneur, c'est-à-dire le précepteur, et son disciple, enfin adulte, décident de parcourir le monde. Mais ils n'y trouvent que la réalité, l'arbitraire, la brutalité, au point qu'ils décident de retourner vivre à la campagne, le plus loin des hommes qu'il sera possible. Le pessimisme de Rousseau est donc l'autre versant de l'optimisme des Lumières. Et c'est peut-être de ce côté qu'il faut chercher une autre postérité à l'Émile dès la fin du XVIIIe siècle. Imaginons maintenant un autre jeune homme, enfermé dans sa petite chambre et observant le monde depuis la tourelle du château de Combourg. Il est le fils trop solitaire du trop sévère comte de Chateaubriand. Il lit Émile et y trouve le premier miroir, dit-il, de son moi profond, ce moi profond inaccessible à sa famille. Plus tard, Chateaubriand verra en Madame de Staël, mais aussi en Napoléon, tous deux, ancien lecteur de l'Émile, des confrères en rousseauisme, dispersés en tous sens par l'histoire. Être né après Rousseau. Marc Fumaroli n'hésite pas à voir là, je cite, une ligne de partage entre Français, aussi décisive, peut-être même plus décisive, que le fleuve de sang de la terreur divisant victimes et bourreaux, anciennes et nouvelles France. L'auteur des Mémoires d'Outre-Tombre prendra de plus en plus ses distances avec celui des Confessions. Il repensera avec douleur au jeune homme qu'il était lorsqu'il accomplit en 1792 le pèlerinage sur la tombe de Jean-Jacques à Ermenonville. C'est qu'il y avait croisé d'autres pèlerins, moins innocents, tint Bertrand Barrère, que Chateaubriand appelle le troubadour de la guillotine, venu conter fleurette révolutionnaire à l'ombre de Jury. Ce que Chateaubriand retient surtout de Rousseau, ce n'est certainement pas la pédagogie négative d'Émile. C'est la critique à l'encontre des hommes de lettres de son temps, chez qui l'épaisseur mondaine compense la minceur du talent. Comme Rousseau, il est étranger au moule intellectuel et littéraire de la monarchie absolue finissante. Comme lui, il en déplore la déliquescence morale. L'aveulerie n'a-t-elle pas conduit nombre d'entre eux à servir la terreur de Robespierre, puis la tyrannie de Bonaparte. La morale des lettres pour Chateaubriand, c'est la liberté et la noblesse. Cette morale des lettres est en crise au temps révolutionnaire, et ce n'est pas un hasard si l'époque voit précisément naître de nouvelles propositions pour enseigner la morale aux enfants. Au comité d'instruction publique créé par la Constituante, Mirabeau, Lacanal et surtout Condorcet appelèrent de leur vœu l'enseignement d'une véritable morale publique. Premier besoin de toutes les constitutions, disent-ils. Un rapport de septembre 1791 affirme que cette morale peut être enseignée comme une science véritable dont les principes seront démontrés à la raison de tous les hommes. Je cite encore, « Il est temps de l'asseoir sur ses propres bases et de montrer aux hommes que si de funestes divisions, notamment religieuses, les séparent, il est du moins dans la morale un rendez-vous commun où ils doivent tous se réfugier et se réunir. » Fin de citation. Lorsque vous saurez que l'auteur de ce rapport s'appelle Talleyrand, vous penserez comme moi que la morale a au moins un point commun avec la religion, elle a ses croyants non pratiquants. En 1795, Pierre Donoux, fondateur de notre académie dans sa première forme, inscrit officiellement les éléments de la morale républicaine parmi les enseignements de l'école primaire. On veut ainsi compenser chez le futur citoyen la double éclipse, celle de la religion et celle de la rhétorique scolaire. Une telle nouveauté pédagogique sera supprimée 8 ans plus tard par Bonaparte, au moment où notre académie elle-même fera les frais de sa propre liberté de pensée. En 1832, le second fondateur de notre compagnie, François Guizot, qui était alors ministre de l'Instruction publique, remet à l'honneur, à son tour, l'éducation morale. Le but est le même qu'en 1795. Chaque famille, en confiant son enfant à l'institution, lui demande de lui rendre un honnête homme et le pays un bon citoyen. Mais le moyen est différent. Pour cette éducation, écrit Guizot, rien n'est plus désirable que l'accord du prêtre et de l'instituteur, tous deux étant revêtus d'une autorité morale et voués à exercer une influence commune. En attendant que cet irénisme soit contesté puis renversé, l'instruction morale proprement dite resta donc liée à l'instruction religieuse. Tandis que l'éducation morale au sens large, reposera toujours sur l'enseignement des belles lettres. Regardons par exemple le recueil le plus utilisé au XIXe siècle, celui de François de Laplace, professeur de rhétorique, évidemment, qui s'intitule « Leçons de littérature et de morale ». Il se donne pour vocation, dit la préface, la commune régénération dans les écoles de la morale et de la littérature en se servant de l'un par l'autre. C'est un bonheur, je vous l'assure, de se plonger dans ce recueil d'une richesse exceptionnelle où se côtoient Homère et Ovide, Molière et Voltaire, mais où on tombe aussi sur de curieuses surprises. Par exemple, un extrait d'un grand poème de Berchou intitulé « La gastronomie », car rien n'échappe à la morale. Le passage cité concerne le café. Le café vous présente une heureuse liqueur qui d'un vin trop fumeux chassera à la vapeur. Vous obtiendrez par elle, en désertant la table, un esprit plus ouvert, un sang-froid plus aimable. On voit l'indéniable portée morale de tel vers, la chute est un peu moins. Bientôt, mieux disposé par ses puissants effets, vous pourrez vous asseoir à de nouveaux banquets. Autrement dit, non seulement des lettres à des contenus moraux, certes, mais c'est l'enseignement moral qui a surtout un contenu littéraire. À ceci près que l'instruction morale stricto sensu, encore associée à l'instruction religieuse, s'appuie souvent sur des textes bibliques ou des textes chrétiens. Bientôt va venir le temps de séparer dans l'instruction publique la morale et la religion. Ce temps, nous le savons, c'est celui de la Troisième République. Je dois cependant profiter de ce petit discours pour compléter sur un point l'histoire communément admise de l'enseignement laïque de la morale. Cet enseignement n'a pas été inauguré par Jules Ferry, mais par Victor Duruy, lors de la création de l'enseignement spécial à côté de l'enseignement général. En effet, la loi Duruy, votée le 31 mai 1865 à l'unanimité des députés, y compris donc par l'opposition républicaine, fonde un nouveau parcours scolaire en 4 années où l'essentiel de l'effort portera sur les sciences. Certes, les élèves auront quelques cours de langue française, mais seront dispensés des belles lettres et des humanités. Et c'est précisément parce que cet enseignement spécial ne comporte ni rhétorique, ni lettres classiques, ni littérature, qu'il faut le doter d'un cours spécifique de morale. Le programme officiel ainsi que le manuel de référence sont composés par un des membres de notre compagnie, Adolphe Franck, philosophe et moraliste, qui avait été en 1844 le premier juif élu à l'Académie des sciences morales et politiques. Disciple de Victor Cousin, spiritualiste donc, Adolphe Franck compose pour la première fois en France un programme scolaire complet de morale conçu dans un esprit laïque. Les devoirs envers la divinité ne sont pas ignorés, mais ils ne forment pas la base de l'ensemble. Et si l'auteur souligne la nécessaire alliance de la morale et de la religion, il se situe cependant dans une stricte neutralité confessionnelle. 15 ans plus tard, le célèbre article 1er de la loi du 28 mars 1882 remplace l'instruction morale et religieuse par l'instruction morale et civique dans les trois cours élémentaires, moyens et supérieurs. Bien que personnellement positiviste, Jules Ferry sait que le personnel de l'instruction publique est alors très largement spiritualiste. Et c'est à deux représentants de ce courant qu'il confie le programme d'instruction morale, Henri Marion et Paul Janet, encore un membre de notre académie. Sous l'influence de Jules Simon, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, et de Ferdinand Buisson, les devoirs envers Dieu sont maintenus dans les programmes. Ils y resteront en théorie tout au moins jusqu'en 1923. Mais l'intention profonde est claire, il s'agit de mettre la morale comme en dehors ou au-dessus des systèmes métaphysiques. Pour autant, et c'est un point essentiel, l'instruction morale à l'école républicaine est, suivant le mot de Jules Ferry, une morale sans épithète. Il n'y a qu'une morale. Il n'est pas nécessaire de la qualifier. Elle n'est plus religieuse, mais elle n'est pas pour autant suivie de l'épithète laïque. La morale, dit Jules Ferry, est plus grand de quand on ne la définit pas. Il existe à ses yeux une merveilleuse et constante unité de la morale. Il ne se prive pas de reprocher aux catholiques d'exagérer les divergences par esprit de polémique. À l'appui de l'unicité de la morale, il cite Confucius, mais aussi le bouddhisme, qu'il voit comme une religion d'une grande sévérité morale. Jules Ferry refuse de faire des instituteurs un corps de 50 000 vicaires savoyards formant une nouvelle caste sacerdotale. Dans sa célèbre circulaire de 1883, adressée à tous les instituteurs, il indique clairement leur mission. « Vous n'avez pas à enseigner à proprement parler rien de nouveau, rien qui ne vous soit familier comme à tous les honnêtes gens, mais les principes mêmes de la morale. J'entends simplement de cette bonne et antique morale que nous avons reçue de nos pères et que nous honorons tous de suivre dans les relations de la vie sans nous mettre en peine d'en discuter des bases philosophiques. Le législateur, dit encore Jules Ferry à l'instituteur, n'a voulu faire de vous ni un philosophe, ni un théologien improvisé. Il ne vous demande rien qu'on ne puisse demander à tout homme de cœur et de sens. » La querelle sur les bases philosophiques et religieuses de la morale est, comme chacun le sait, un des plus intenses débats intellectuels de la Troisième République, y compris et surtout à l'intérieur même du camp laïque. Ferry ne l'ignole pas, c'est pourquoi il se montre prudent. Si l'on veut réussir à acclimater la laïcité, dit-il, il faut fonder l'école républicaine non sur un discours de division, mais sur un consensus moral. Je ne veux pas à mon tour ignorer ces débats fondamentaux, toujours actuels, mais permettez-moi de trouver dans la politique de Jules Ferry, dans sa quête du consensus plutôt que du choix militant ou clivant, une pertinence éternelle. Par définition, aucun enseignement dispensé à l'école laïque n'est autre que laïque. Il n'est pas plus utile de parler de cours de philosophie laïque, d'histoire laïque, de lettres laïques, d'économie laïque que de morale laïque. Dans le tour du monde de la France par deux enfants, certes, les exclamations de la guerre « Mon Dieu » qui étaient dans la première édition sont devenues simplement « Hélas » dans l'édition de 1906. Un siècle plus tard, existe-t-il une définition consensuelle et sereine de la laïcité? Je n'en suis pas certain, même si on doit le souhaiter. C'est pourquoi la morale sans épithète me paraît encore la formulation qui divisera le moins les Français. Au fond, que gagnerait un enseignement de la morale, enfin de retour, à être qualifié de laïque? Faut-il brandir cette épithète pour dire aux élèves, comme pour s'en excuser à l'avance, qu'il existe différentes doctrines sur les fondements de la morale, dont certaines, et non des moindres, sont religieuses? Certes non. Et faut-il qualifier le contenu même de la morale? Mais le dévouement, la solidarité, le respect dû aux hommes et aux lois, l'honnêteté, la franchise, la dignité, la tolérance, toutes ces qualités et bien d'autres ne sont ni religieuses ni laïques. Elles sont universelles, permanentes. Elles sont, c'est tout. Et c'est bien assez. Au cours du XXe siècle, le respect de la propriété, sur lequel les cours de morale d'autrefois insistaient fortement, a été souvent contesté. Et cette critique contre la morale bourgeoise n'est pas pour rien dans la suppression de cet enseignement en 1969. Que faut-il en déduire pour aujourd'hui? Sinon que la laïcité n'est qu'un critère parmi d'autres pour définir la voie d'une morale scolaire dans l'école de la République. Il n'est pas dans mes intentions de prendre position ici et maintenant sur le contenu des futurs enseignements de morale, mais de rappeler qu'il doit être la priorité. Sans vouloir idéaliser le passé, il me semble qu'il fut un temps où les devoirs envers autrui, les devoirs envers la société, avaient un réel prestige. Aujourd'hui, peut-être se demande-t-on quels sont les devoirs d'autrui et les devoirs de la société envers soi. Le but de l'instruction morale est d'inverser cette tendance mortifère. Et cet enjeu n'a pas grand-chose à voir avec la religion ou la laïcité. C'est pourquoi il vaut mieux parler d'un enseignement laïque de la morale plutôt que d'un enseignement de la morale laïque. Si cet enseignement risque d'être source d'une division, permettez-moi de proposer un terrain d'entente. Un terrain d'entente, la morale des lettres, ou pour mieux dire, cette inquiétude éthique qui est sans cesse attisée par la littérature. Prenons encore un manuel d'autrefois, le livre de morale des écoles primaires, d'Albert Baillet, paru en 1923. L'auteur, professeur au lycée Louis-le-Grand, annonce dans son avant-propos « Le corps de ce livre est formé de récits. La morale y prend un aspect précis, vivant, car les jeunes esprits sont toujours plus frappés par les exemples que par les préceptes. » Évidemment, le livre contient moult préceptes, mais chaque thème est accompagné d'un texte. Voici Pascal et la sincérité, la bruyère et la politesse, la menée et l'assistance aux malheureux, Georges Sand et le labour, on est en 1923, Sully Prudhomme et la beauté du travail intellectuel, Maupassant et les vertus de la tempérance, dont il donnait si peu d'exemples, Romain Rolland sur l'amour maternel, la parabole du fils prodigue sur les devoirs entre parents et enfants, Anatole France et les grands hommes, Boileau et la folie des conquérants, opposés aux bienfaits de la société des nations, mais aussi Lucrèce, Sophocle, Montesquieu, Voltaire, Tolstoï, Jaurès, les fables de La Fontaine, Florian et surtout Victor Hugo, le phare des bons sentiments, l'auteur moral universel. L'instruction morale s'est toujours appuyée et s'appuiera donc toujours et encore sur les lettres. C'est, pourrait-on dire, la morale des lettres, pesante, conformiste, la morale moralisante. Mais je voudrais rappeler qu'il existe une autre morale des lettres, sans doute complémentaire de la première. Elle traverse tout l'enseignement littéraire et toute l'action du pédagogue. Elle a pour but le questionnement, le doute, l'inconfort des certitudes, l'ébranlement moral. Et cette interrogation, elle anime de toute évidence les lettres et les lettres classiques. Je suis de ceux qui estiment que les lettres à Lucullus ont encore à nous apprendre sur le plan moral depuis 20 siècles, parce qu'on n'a jamais cessé de voir en Sénèque un homme qui a compris et expliqué les sentiments humains tout en se montrant ironique afin de combattre un conformisme qu'il estimait périlleux. Du côté des lettres plus récentes, comment ne pas voir la portée morale du théâtre, de Molière à Beckett, de la poésie, de Ronsard à René Char, du roman, de Pétrone à Camus? Comment négliger Saint-Simon ou Renan? Comment lire Stendhal même sans pénétrer les mobiles des personnages, sans chercher le sens de la vie qui explique leurs actes? Comment lire Dostoïevski sans interroger, avec les héros en dialogue, les implications éthiques de leur choix? Ce qui, au fond, rejoint la raison d'être de la vieille rhétorique délibérative. Comment entendre le discours de Malraux, accueillant Jean Moulin au Panthéon, sans être saisi par la force morale de son discours, lorsqu'il dit « Sa pauvre face informe ce jour-là était le visage de la France ». L'écrivain ne voit-il pas dans la France non seulement un peuple, mais un ensemble de valeurs? Dans les traits défigurés du héros, il déchiffre ceux d'une France qui incarna ses valeurs morales jusqu'au sacrifice. On est loin du simple moraliste bon enfant et passe-partout. Certes, la littérature n'est pas seulement la résonance des vertus exemplaires, elle est un vaste lieu de dialogue entre des points de vue sur les choses de la vie. Elle apprend à mieux vivre. Elle ne souffre pas le simplisme ni le préjugé. Elle enseigne la complexité des problèmes humains. Elle est un laboratoire de valeurs morales en action. Et dans cette fonction, la littérature n'est pas seulement utile. Elle est unique. Elle est irremplaçable. Mesdames et messieurs, rappelant à Horace et à Érasme une jolie métaphore, Montaigne écrivait à son élève supposé: « Les abeilles pillotent deçà, de là les fleurs, mais elles en font après leur miel, qui est tout leur. Ce n'est plus thym ni marjolaine, ainsi les pièces empruntées d'autrui. L'enfant les transformera, les confondra, pour en faire un ouvrage tout sien, à savoir son jugement. Si l'enseignement de la morale est conçu comme un prêt-à-penser dogmatique, sorti tout casqué de nos cerveaux pour être imposé aux élèves, il est voué à l'échec. Comme les abeilles, le jeune préférera toujours librement faire son miel. Si cet enseignement est un acte de conquête d'une partie de la nation contre une autre, il sera vain et contre-productif. Au contraire, s'il s'appuie sur les autres disciplines, les lettres en premier lieu, mais aussi selon les années et filières, sur l'histoire, les sciences du vivant, et tant d'autres disciplines, il sera solidement et durablement réinstallé dans notre paysage scolaire. Sa principale chance de succès, d'ailleurs, tous les enseignants vous le diront, c'est l'extraordinaire attirance des élèves d'aujourd'hui pour les débats de société sur la conscience ou sur la responsabilité morale. Cet enseignement, mesdames et messieurs, sera rétabli pour un motif noble et nécessaire. Tout simplement, nos enfants en ont besoin. Trop sollicités par des activités ou des informations périphériques, déterminés jusqu'au scandale par leur environnement social originel. Les élèves subissent les spasmes d'une époque où l'on passe d'une civilisation de la transmission à une civilisation de l'information. Jamais ne sont apparus avec plus d'évidence l'impossibilité de tout savoir et le danger de tout gober. Revenons à Rousseau pour conclure, en lui donnant cette fois-ci notre assentiment. Lorsqu'il écrivait « La seule habitude que l'on doit laisser prendre à l'enfant, c'est de n'en contracter aucune. » Je vous remercie de votre attention.
L'intégralité des discours que vous venez d'entendre peut être lue sur le site de l'Académie des sciences morales et politiques www.asmp.fr, rubrique « Vie de l'Académie, séance solennelle ».